et moi, nous sommes très heureux d'être parmi vous. C'est des retrouvailles, encore une fois. Retrouvailles pour un partage, hein, pour ce moment de communion fraternelle. Partage aussi de cette joie que nous avons ensemble. C'est le Seigneur qui nous permet de nous réjouir ensemble. Et puis, la joie de pouvoir nous mettre ensemble à l'écoute de la parole. C'est un privilège. Eh bien, nous nous en réjouissons avec reconnaissance. Je vous invite à prier avec moi. Beaucoup de choses nous ont déjà été rappelées ce matin, cette grâce que tu nous fais, de pouvoir nous tenir devant toi tels que nous sommes, de pouvoir nous mettre à ton écoute, de pouvoir compter sur ton aide, cette aide que nous réclamons et dont nous avons tellement besoin. Alors merci pour ta conduite de ce moment. Nous nous remettons à toi, nous qui sommes ici présents, ainsi que tous ceux qui n'ont peut-être pas pu venir ce matin. C'est pour ta gloire que nous sommes réunis pour te louer, pour t'écouter. Sois au milieu de nous. Amen. Alors pour ce qui est une randonnée que vous avez commencé déjà il y a un certain temps, j'ai reçu un topo pour suivre cet itinéraire. C'est Eric qui m'a envoyé ce document dans lequel il est indiqué que je dois prendre un court instant au début pour résumer les épisodes précédents. Je vais donc m'acquitter de ce devoir, mais peut-être avec un certain handicap puisque j'étais pas là les fois dernières. Bon, je sais que je ne risque pas grand-chose en me lançant dans cet exercice. Et même si je m'éloigne un peu de ce que vous avez entendu, je pense que je ne vais pas trahir le contenu du sermon sur la montagne. Et puis, si c'était un peu le... ça peut faire un complément d'information, après tout. Donc, pour faire ce fameux résumé, en parcourant l'ensemble de ce sermon, je me suis focalisé sur l'organisation générale du discours. Alors voici comment je l'ai comprise. Comme vous, j'ai noté que ça commençait par les béatitudes, qui soulignent cette position paradoxale des disciples, à contre-courant de la pensée habituelle. Ils sont invités à se rendre compte de leur bonheur. Heureux êtes-vous. Mais ça n'empêche pas que dans leur vie présente, ils connaissent un certain inconfort. Un inconfort que l'on retrouve dans la suite. Alors, ils sont lumière du monde, ils sont sel de la terre. Du coup, ils ont un rôle à jouer. Et avec... à la clé, une vision des choses à corriger. C'est ainsi que, par la suite, dans la suite, au chapitre 5, il y a toute une série d'exhortations qui se présentent sous la forme « Vous avez entendu, mais moi je vous dis ». Alors, c'est au sujet du meurtre, au sujet de l'adultère, au sujet des serments, au sujet de la vengeance, au sujet des ennemis. Voilà tout un tas de choses à corriger. Et au chapitre 6, bien sûr, la forme change un peu, mais il y a toujours cette nécessité pour les disciples de réviser leur jugement. Alors, ne faites pas ceci, gardez-vous de, ne soyez pas comme, ne multipliez pas les paroles, ne prenez pas un air sombre, etc. Et puis, avec l'invitation à aller dans la direction opposée, à faire l'inverse. Après avoir dit « ne faites pas », eh bien Jésus dit « voici ce qu'il faut faire quand tu fais l'aumône, voici comment vous devez prier, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Bien sûr, vous avez remarqué sans doute des choses rassurantes, notamment sur la confiance que l'on peut avoir en Dieu. Vous avez entendu, votre Père sait bien de quoi vous avez besoin. Et puis, il parle aussi un peu plus loin, Jésus parle un peu plus loin, des oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, avec cette invitation, ne pas se laisser gagner par l'inquiétude. C'est un appel à la confiance aussi. Mais même pour la confiance, répondre à un tel appel n'est pas toujours chose facile pour tout le monde. Et c'est donc dans ce contexte que s'ajoute cette exhortation pour ce matin. Priez, cherchez, frappez. Sujet sans doute très vaste, et sans doute je risque d'être un peu incomplet. Alors, voici donc la lecture que je fais dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, et ce sont les versets 7 à 11. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Si son fils lui demande du pain, quel est parmi vous celui qui lui donnera une pierre? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, tout en étant mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Est-ce que nous sommes toujours à l'aise avec ces versets? Je dois dire que dans ma vie, j'ai passé plus de temps à être écouté qu'à écouter les autres prédicateurs. Mais je ne sais pas si dans nos milieux, on prêche souvent sur ce passage. Peut-être vous pourrez en juger mieux que moi. L'exhortation elle-même est simple, mais traiter le sujet est quelquefois peut-être un peu plus délicat. En témoignent les quelques commentaires bibliques que j'ai pu lire, qui tous jugent important de répondre à un certain nombre d'objections que l'on peut faire sur ce texte. Objections que nous pouvons entendre, ou peut-être que nous pouvons émettre nous-mêmes. Ce sont des objections qui méritent d'être entendues. Elles peuvent nous faire réfléchir notamment sur notre vision des choses et sur nos réactions, sur nos réflexes. Alors, à propos de notre vision des choses, une question, quelle image avons-nous de Dieu? Si c'est le Créateur de tout l'univers, qui sommes-nous pour nous adresser à lui, pour qu'il s'intéresse à nous, nous, ces petites créatures? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Disait le psalmiste. Que sont nos petits problèmes à côté? Il a probablement des choses plus importantes à traiter. Je crois que le psalmiste pourrait bien comprendre cette objection, mais dans le même temps, il s'émerveille de l'attention que le Créateur porte à ceux pour qui il a créé le monde. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. L'humanité a beaucoup de prix à ses yeux. Et beaucoup de considérations. Dans notre lecture, pour en revenir à Matthieu, la parabole du fils qui demande du pain et du poisson à son père met en scène un Dieu attentif et désireux de répondre aux besoins, aux demandes de ses enfants. Jésus le présente sous les traits d'un père, c'est-à-dire quelqu'un de digne de confiance, qui aime ses enfants, même s'il gère beaucoup d'autres choses. Alors, qu'on ne puisse pas le déranger, ce n'est surtout pas ce que Jésus dit. Est-ce qu'il y a des sujets qu'il juge moins importants que d'autres? Est-ce que, par exemple, il ne répond que lorsqu'on demande de grandes choses, de belles choses, des choses spirituelles, par exemple, la croissance de l'Église, des conversions? C'est peut-être plus important que nos petites affaires personnelles. Eh bien, quand même, dans la parabole, le pain et le poisson sont là pour désigner quand même des besoins bien matériels. Il n'y a pas que les choses spirituelles. Alors, sans doute, y a-t-il pour lui des choses plus importantes que d'autres, mais qui peut juger de ce qui, à ses yeux, est utile ou superflu? N'est-il pas dit que même nos cheveux sont comptés? C'est pas dans Matthieu 7, c'est dans l'évangile de Luc, mais ça y est. Et dans Matthieu, il y a la beauté des lys des champs, quand même, qui peut-être ne nous semble pas très vitale, et pourtant, Dieu leur a donné de la beauté. Est-ce que c'était superflu? Lors de son ministère, Jésus a montré combien il était sensible à la souffrance des gens physiques, des gens, souffrance physique, souffrance morale, mais il est allé même au-delà, il a donné à manger à des foules, et pas seulement, puisqu'il n'a même pas boudé cette fameuse fête de noces à Cana. Et on sait comment il s'en est sorti. Alors, des décennies après son ministère sur terre, les chrétiens étaient toujours appelés, et j'ajouterai, sont encore aujourd'hui appelés, à faire connaître leurs besoins à Dieu. Je cite l'apôtre Paul, « En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. » Alors, peut-être on dira, bien sûr, des vrais besoins, mais en toute chose, c'est-à-dire dans tous les domaines. Autre inquiétude, peut-être, sommes-nous assez consacrés? Sommes-nous assez engagés dans son service pour qu'il daigne nous écouter? Sommes-nous assez méritants? Un père n'est pas un juge indifférent aux faiblesses et aux écarts de ses enfants, vous le savez. S'il est un bon père, il restera préoccupé par leur éducation. Même en étant ferme, il fera tout pour qu'ils comprennent les choses, pour qu'ils changent de regard. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on doit apprendre, mais dans le même temps, je crois qu'on peut voir aussi cette image du Père céleste que Jésus donnait dans la parabole du fils prodigue. C'est pas la peine que je vous la projette parce que vous la connaissez. Cette image, c'est celle d'un homme qui n'attend que le retour de celui qu'il avait abandonné, plein de compassion. Il y a des choses à réviser quelquefois sur notre vision de Dieu. Mais il importe aussi que nous regardions nous-mêmes, autrement dit, on pourrait dire ainsi, quelle sorte d'enfants sommes-nous ? Alors, il y a des enfants qui veulent tout et tout de suite. Vous en connaissez sans doute. Eh bien, comme quelquefois, nous ne savons pas toujours ce qui est bon. Nous n'avons pas le regard de Dieu. Et parfois, ce que nous désirons, soit n'est pas nécessaire pour tout de suite, soit n'est pas une bonne chose. Les enfants n'obtiennent pas tout de leurs parents. En période de sécheresse, un exemple, qui Dieu doit-il exaucer ? Le touriste qui veut du soleil ou l'agriculteur qui veut de la pluie ? Qu'est-ce qui est bon à demander ? Certains commentateurs disent ceci, heureusement que Dieu n'a pas exaucé certaines de nos prières. Personne ne dit Amen. Bon. Et puis, il y a le problème de la patience. Tout et tout de suite aussi. Parce que les enfants sont souvent impatients. Mais bien sûr, on n'accède pas à leurs désirs immédiatement parce qu'il y a un temps pour toute chose. En principe, bien, on attend l'heure du repas pour les servir. Ou même quand ils sont trop jeunes, on ne les laisse pas courir les dangers de la circulation sur le bord de la route. Et pour ce qui concerne nos états d'âme, nous pouvons être parfois peu enclins à prier. Il peut y avoir en nous un peu ce quelque chose qui résiste, qui veut se débrouiller tout seul, qui se dit bon, « j'ai pas tellement besoin de prier, ça sert à quoi ?» Un peu comme un enfant qui refuse l'aide et qui veut réussir par lui-même. En soi, c'est pas forcément si mal, hein. Il faut bien se prendre en main quelquefois. Mais ça peut nous entraîner vers une forme d'orgueil dans laquelle on se croit fort. C'est un travers. Mais il y a aussi le travers opposé. Est-ce que nous faisons des prières assez bonnes pour qu'elles soient exaucées ? Est-ce qu'on prie assez bien ? Est-ce qu'on sait faire ? L'apôtre Paul, encore lui, avouait ne pas savoir ce qu'il convient de demander dans ses prières. Il reconnaissait que par nous-mêmes, et là je le cite, c'est dans l'Épître aux Romains chapitre 8, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Et il ajoutait qu'il comptait sur le secours de l'Esprit de Dieu qui, disait-il, intercède pour nous. C'est sur Dieu qu'il faut compter. Autre chose à propos de nos prières, vous avez peut-être remarqué en lisant dans les psaumes ces prières que, sans doute, nous ne lisons pas souvent au cours des cultes, ces prières que nous n'osons même pas formuler, parce qu'il y a des paroles très violentes, il y a des malédictions, et qui sont quand même là, dans le recueil des psaumes. Et si elles sont là, c'est qu'elles sont quand même utiles, peut-être. Ce que disent les commentateurs d'une manière générale, pour que le psalmiste arrive à accueillir la volonté de Dieu et retrouver la paix de la communion, eh bien, il a fallu qu'ils en passent par ces chemins. Exprimer leur inquiétude, exprimer leur colère, exprimer leur révolte. C'est ce qui permet parfois d'aller plus loin. Le dire à Dieu. Alors, même si nous sommes adultes, nous sommes comme ces enfants. Qui, et j'ajoute, ont besoin aussi de se savoir aimer. C'est pour ça que Jésus introduit ici la réalité des relations d'un enfant avec son père. pas seulement pour le gîte et le couvert. Pour les Juifs, Dieu, c'était le père de la nation d'Israël, dans un sens plutôt historique, et ce sur quoi Jésus insiste, c'est sur la notion d'un Dieu pas seulement tout-puissant, mais proche. Alors, on reste conscient du respect que l'on doit à Dieu, mais on a un libre accès auprès de ce Père céleste. Pour conclure, j'en reviens au texte lui-même qui nous rappelle cette volonté de Dieu de répondre. C'est par ailleurs suffisamment attesté dans les évangiles. Plusieurs d'entre nous pourraient peut-être faire état d'exaucements. Je citerai quelqu'un que vous connaissez probablement, Louis Schweitzer, qui dit dans un de ses écrits sur la prière, justement, « La prière peut être exaucée, et si nous lisons les évangiles, cela dépend de nous. » Sous-entendu, si nous ne demandons pas, ben, y a des choses que nous n'aurons peut-être pas. Mais il ajoute aussi, la prière, c'est la rencontre entre deux libertés, celle d'un homme libre de demander selon ce qu'il voit, selon sa conscience, et celle de Dieu, libre aussi, désireux de prendre en compte nos demandes, mais qui n'a pas toujours la même vision des choses et qui sait ce qui est le mieux. L'apôtre Paul parlait de sa mystérieuse écharde dans la chair en disant avoir insisté auprès de Dieu 3 fois, dit-il, pour qu'elle soit éloignée de lui. Et il s'est entendu dire « Ma grâce te suffit ». C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Exemple d'une prière qui fait évoluer celui qui prie. Parfois même, avec le temps, des prières s'effacent de notre esprit. Mais au moment où on les a dites, elles ont peut-être été utiles. Prier donc, c'est demander et attendre, persévérer, mais aussi rester à l'écoute, même s'il faut parfois du temps, dans le silence, dans la réflexion. D'ailleurs, dans sa relation avec ses parents, un enfant ne fait pas que demander, il a bien d'autres choses à leur dire. Justement, ce serait plutôt de relation avec Dieu qu'il faudrait parler. En d'autres termes, même de foi, d'engagement confiant. Si nous avions tout et tout de suite, ou si nous recevions sans rien avoir à demander, que serait notre relation à Dieu? Quelle conscience aurions-nous de notre dépendance à lui? Alors, je n'ai pas la recette pour que notre prière soit exaucée comme nous le souhaitons. Il ne suffit pas de prier pour obtenir automatiquement tout ce que l'on désire. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Mais voici pour terminer une remarque sur le verset 8. En lisant ceci, « Quiconque demande... quiconque cherche, et à celui qui frappe. » Le temps des verbes dans le texte grec indique une action dans la continuité, pas quelque chose de ponctuel d'une fois et puis après c'est fini. Il y a l'idée d'une durée dans le temps. C'est une nuance qui peut passer inaperçue dans notre langue française, mais qui fait que l'on pourrait comprendre ainsi, même si c'est de façon si un peu moins élégante, le demandeur, le chercheur, le frappeur, comme pour évoquer une attitude habituelle. Celui qui a l'habitude de demander, celui qui cherche. Autrement dit, il ne s'agit pas de s'adresser à Dieu pour demander quelque chose comme quand on va au distributeur de billets de banque et qu'on s'en va quand c'est fini. Il s'agit de s'inscrire dans une relation durable avec celui qui nous connaît, qui nous aime, qui sait qu'il vaut mieux pour les, qui sait ce qui vaut mieux pour les siens. Et je suppose que dans ce type de relation, la prière est quelque chose qui vient finalement assez naturellement quand on se tient à sa présence. C'est à ses disciples que Jésus adressait ses paroles. Dans tout ce que j'ai résumé tout à l'heure, il leur dit « Ouais, votre choix de me suivre vous conduit dans des situations inconfortables, peut-être. » Le sermon sur la montagne rappelle tout ça. « Mais vous n'êtes pas seul. » Et en disant « Cherchez, frappez, cherchez, demandez », eh bien, c'est un pas de confiance qu'ils sont invités. C'est un pas de confiance que nous sommes invités. Confiance en celui qui connaît nos besoins et qui tient à ce que nous continuions à nous adresser à lui rester attachés, conscients que sans lui, nous ne pouvons pas grand-chose. Le Seigneur est bon. Amen.